Voici le journal de Clara Lecoq-Réal. Bonjour Clara.
Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Les désaccords de fond ne sont pas levés sur la réforme des retraites. Les discussions entre gouvernement et partenaires sociaux n'y ont rien changé ou presque hier. L'âge pivot reste un gros point de blocage, vous l'entendrez.
Dans ce journal, nous nous pencherons aussi sur les épreuves à venir du baccalauréat. Le contrôle continu débutera après les vacances de Noël, mais l'organisation a pris du retard. Cela inquiète professeurs et élèves.
L'une des plus vieilles centrales nucléaires de Suisse sera débranchée aujourd'hui. Un choix du gouvernement qui pose quand même la question du stockage des déchets nucléaires, vous le comprendrez.
Et puis nous ferons un point sur la grève à Radio France et les négociations avec la direction concernant le plan de suppression de postes.
Dans un gros quart d'heure enfin, Stéphane Robert nous rejoindra. Il se penchera sur la jeunesse agacée de voir ses aînés dégrader la planète. Son billet politique à 8h17. Le bilan est mitigé après les discussions entre gouvernement et syndicats sur la réforme des retraites. À la sortie de la réunion multilatérale hier, la situation semblait un peu moins crispée. Une envie commune d'avancer, mais dans quel sens et sur quel point? Le Premier ministre Édouard Philippe a ainsi égrené hier les mesures sur lesquelles il est prêt à modifier la réforme. Réforme dont l'objectif reste toujours le même, Anne-Laure Jumet.
Équilibrer le régime de retraite, cela reste la priorité, assure Édouard Philippe. Mais le Premier ministre ouvre la voie à une solution à géométrie variable. Il pourrait y avoir ainsi des âges pivots. Pour définir l'âge de départ, on prendrait en compte plusieurs paramètres. La pénibilité, les carrières longues ou encore le handicap. Et puis, Édouard Philippe n'exclut pas non plus d'avoir un âge d'équilibre temporaire avec un système de décote limité dans le temps sur le modèle de ce qui a été décidé pour les retraites complémentaires. Pour ce qui est des régimes spéciaux, pas question non plus de revenir sur leur suppression, mais le Premier ministre fait part de sa volonté de le faire sans brutalité. Et pour les fonctionnaires, il y aura une consultation spécifique à la rentrée pour voir comment atténuer l'impact de la perte de calcul de pension sur les 6 derniers mois. D'autres chantiers vont s'ouvrir après les vacances de Noël, des chantiers thématiques sur l'emploi des seniors, l'aménagement des fins de carrière ou encore la pension minimum, avec pour objectif d'améliorer le projet de loi lors de la discussion parlementaire.
Les discussions à propos de ces chantiers reprendront donc début janvier. Quant à la position du gouvernement sur un âge pivot différencié, elle n'a pas convaincu la CFDT. C'est un point majeur d'ailleurs de désaccord avec le syndicat réformiste, son secrétaire général Laurent Berger.
Il y a un désaccord sur la question de l'âge d'équilibre. Je dois dire que le Premier ministre a dit que si on trouvait une meilleure solution, il était preneur. On a senti une ouverture, il faut le dire, de la part du Premier ministre. La réunion s'est passée dans un climat constructif. Mais il n'y a pas eu une volonté de dire, bah, écoutez, on met ça un peu de côté, on prend le temps d'en discuter, comme le réclame la CFDT. On a fait notre job. Il n'y a pas d'avancée notable sur la question de l'équilibre, mais on continuera d'en discuter et on viendra à chaque fois que nécessaire essayer de convaincre.
Laurent Berger de la CFDT. De leur côté, la CGT et Force ouvrière appellent déjà à une nouvelle journée de mobilisation le 9 janvier prochain. Eux demandaient le retrait pur et simple du projet de système de retraite par points. Et d'ici cette nouvelle journée nationale, la grève, elle continue dans certains secteurs. Dans le ferroviaire, à 4 jours du réveillon de Noël, la SNCF détaille les conditions de circulation de ses trains. Les 400 000 personnes qui ont déjà acheté un billet pour les 23 et 24 décembre auront un train, mais la moitié devront changer d'horaire. Pour les 25 et 26 décembre, l'entreprise ferroviaire doit annoncer tous les détails dans la journée. Il y a par ailleurs aujourd'hui un peu plus de TGV en circulation. En revanche, en Île-de-France, le trafic reste très perturbé pour les métros et les RER notamment. Des trajets difficiles, couplés à des vacances probablement studieuses. Cette pause de fin d'année ne sera sans doute pas très festive pour quelques élèves de première. En tout cas, avec la réforme du baccalauréat, ils devront passer à partir du 20 janvier prochain de premières épreuves anticipées, organisées dans la précipitation selon certains. Ce contrôle continu comptera pour 30% de la note finale à Kim Kasmi.
La première session du bac comprendra les épreuves de langue vivante et d'histoire-géographie pour les filières générales, ainsi que les mathématiques pour les séries technologiques. Les enseignants devront donc choisir des sujets dans une banque de données dédiée et sécurisée, sauf que la plateforme, qui devait être prête à la rentrée, ne l'est que depuis 2 semaines. Résultat, les élèves et leurs professeurs n'ont pas vraiment eu le temps de se préparer pour les examens, d'autant que les nouveaux programmes sont très chargés. Éric Bastigue, secrétaire général de la FCPE.
Le stress est multiple. De nouveaux programmes, une nouvelle organisation. On constate que le groupe classe a complètement explosé avec les enseignements de spécialité. Donc une entraide entre les élèves qui est de plus en plus compliquée, un travail en groupe qui est quasiment impossible, une multitude d'enseignants en phase 2. Tout ça fait que aujourd'hui, nous avons des enfants en première qui sont ravis, vraiment ravis d'arriver aux vacances parce qu'ils sont très, très fatigués et inquiets, bien entendu.
Face à ce constat, la FCPE, tout comme le SNES, demande donc l'ajournement des épreuves. Pas question pour le ministère de l'Éducation, qui indique tout de même avoir conscience du problème. Il devrait donc apporter les ajustements et les précisions à la rentrée de janvier aux proviseurs, notamment sur les programmes, la fraude et les candidats par correspondance.
Jean-Michel Blanquer, vous êtes l'invité des Matins de France Culture, ministre de l'Éducation nationale et de la jeunesse. Que répondez-vous tout simplement aux élèves et surtout aux syndicats que nous venons d'entendre ?
D'abord, je dirais à votre journaliste qui est toujours excellente, qui peut interroger aussi d'autres fédérations de parents d'élèves, d'autres syndicats.
C'est
tout le monde ne dit pas la même chose. Non, mais si dans un tel reportage, on n'entend qu'une seule voix. Je voudrais d'abord dire, que les élèves de première sont d'abord en général très ravis de la situation dans laquelle ils ont été depuis la rentrée, c'est-à-dire avec beaucoup plus de choix, qui leur a permis plus d'approfondissement, que le contrôle continu a une logique que nous assumons complètement et qui est bonne, c'est-à-dire que les élèves sont beaucoup plus en continu au travail, que quand on a parlé tout à l'heure du retard de la banque de sujets, c'est une semaine de retard, c'est-à-dire que ça devait être début décembre et ça a été une semaine plus tard, c'est regrettable mais ça change pas grand-chose pour des épreuves qui sont le 20 janvier. Bien entendu, il y a beaucoup de choses très nouvelles dans tout cela, donc c'est tout à fait normal qu'il y ait des interrogations, des questions, mais même la personne que l'on entend qui dit qu'il y a il a parlé, je crois, d'explosion du groupe classe, non, c'est tout à fait autre chose. Vous avez d'une part la classe qui correspond au bloc horaire commun qu'ont les élèves en classe de première. Ça représente la majorité des heures quand même. Et puis après, vous avez les enseignements de spécialité. Les conseils de classe ont eu lieu, ont été organisés un peu différemment d'habitude, mais de manière très intéressante. Parce que vous avez à la fois le conseil de classe habituel sur le bloc horaire commun, et puis un travail sur les enseignements de spécialité pour tous les élèves qui ont choisi un même enseignement de spécialité. Donc on est dans une logique beaucoup plus collective que précédemment, parce que, par exemple, on fait travailler plus ensemble les professeurs d'un même enseignement de spécialité. Et puis les élèves sont amenés précisément à être en classe ensemble sur le bloc horaire commun, mais aussi à connaître d'autres camarades dans le cadre des enseignements de spécialité. Donc on est au contraire beaucoup plus dans une logique collective, et puis je dirais dans une logique de fond en fait. C'est-à-dire que les élèves approfondissent davantage, travaillent plus en continu, et puis le contrôle continu qui aura lieu à la fin du mois de janvier, c'est quelque chose d'assez simple, vous savez, c'est des épreuves qui ne durent pas plus de 2 heures et qui, justement, ont fait l'objet d'un travail en continu. Par ailleurs, le pourcentage de chacune de ces épreuves pour la note finale est relativement petit, donc ce n'est pas non plus quelque chose qu'il faut dramatiser, mais qui permet en petite foulée de se préparer à ce qui suivra. Donc la réforme produit ses fruits progressivement. Encore une fois, moi je comprends parfaitement qu'il y ait des questions et même parfois des inquiétudes pour quelque chose de si nouveau et de si profond. Ça, c'est tout à fait normal. Mais je pense que c'est pas nécessaire de toujours décrire les choses en négatif, alors même que là, on a quelque chose qui change profondément dans un sens qui a toujours été souhaité notre système, c'est-à-dire des élèves qui ne sont pas en situation de bachoter, mais en situation de travailler tout au long de l'année, et des élèves qui sont en situation de choisir davantage, et puis aussi de parfois d'avoir une classe organisée beaucoup plus sur des choix, du travail collectif de fond, plutôt que sur des hasards.
Merci Jean-Michel Blanquer pour votre réponse ce matin, ministre de l'Éducation nationale. Vous étiez l'invité des Matins de France Culture.
Merci beaucoup.
Je souligne par ailleurs une décision importante attendue ce matin au tribunal correctionnel de Paris. Il s'agit du jugement dans le procès de France Télécom pour harcèlement moral. Une vague de suicides et de dépression y avait frappé le personnel entre 2007 et 2010. La procureure avait requis 75 000 euros d'amende à l'encontre de l'entreprise France Télécom. 1 an de prison ferme contre trois anciens dirigeants de l'entreprise.
8h09. Sur France Culture, la suite du journal de Clara Lecoq-Réal, la Suisse va éteindre aujourd'hui l'une de ses plus vieilles centrales nucléaires.
Oui, à 12h30 tout à l'heure, le réacteur de la centrale de Mühleberg sera débranché. C'est une première en Suisse qui a décidé de se passer de l'atome. Une première, mais qui pose tout de même beaucoup de questions, surtout sur le stockage des déchets radioactifs. Le gouvernement suisse, lui, ne veut voir que du positif, Jérémy Lanche.
Am 20. Dezember, wir schalten das Kernkraftwerk.
Spot vidéo, cérémonie retransmise en direct à la télévision, apéro avec les riverains et les employés. Rarement une centrale nucléaire n'aura été autant à la fête au moment de son enterrement. Le démantèlement de Mühleberg va durer 15 ans, le temps d'évacuer les 200 000 tonnes de déchets, dont 18 000 tonnes radioactives qui vont être stockées à l'autre bout du pays. Problème, le site est temporaire, la Suisse n'a pas encore décidé où enfouir les restes de ces centrales amenées à être démantelées. Qu'importe pour la ministre de l'énergie, Simonetta Thomas Omarouga, qui préfère voir le verre à moitié plein.
C'est une journée historique, je dirais, mais je sens surtout les chances, les opportunités que ça donne pour l'énergie hydraulique et l'énergie solaire. Aujourd'hui, on dépense des milliards de francs chaque année à l'étranger pour acheter du pétrole, du gaz. Les investissements dans le solaire dans notre pays, c'est bien aussi pour l'économie, pour les places de travail.
Dans l'immédiat, la fermeture de Mühleberg pourrait surtout conduire à une hausse des importations d'électricité venues d'Allemagne et de France, car si la Suisse exporte en général plus d'électricité qu'elle n'en importe grâce à ses barrages hydroélectriques, ce n'est pas le cas en hiver quand la consommation énergétique explose.
C'est un pays où le rideau de fer s'est brutalement abattu un soir de Noël, en direct ou presque, sur les télévisions occidentales. Le 25 décembre 1989, en Roumanie, Nicolae Ceaușescu était fusillé avec sa femme après un simulacre de procès. Fin d'une révolution en trompe-l'œil dont l'histoire précise reste encore à écrire. 30 ans plus tard, la Roumanie est en train de changer. Le pays est membre de l'Union européenne depuis 2007, mais la corruption y est légion. Et pour le grand reportage de la rédaction ce vendredi, Louise Baudet s'y est rendue. Elle a notamment rencontré Ioana Vulcan, 33 ans, qui, comme toute une génération d'ailleurs, espère quitter la Roumanie malgré un emploi stable et bien payé.
C'est difficile de vivre dans un pays où on paie des impôts et des taxes pour enrichir des gens qui sont vraiment nuls. Pas seulement corrompus, ils sont vraiment stupides. Il faut avoir de patience, mais moi je ne suis pas sûre que j'ai cette patience. J'ai presque 33 ans, je pense aux enfants. Et dans ces conditions, c'est une folie. Je proteste, je vote et tout ça. Je ne suis pas sûre si ça suffit pour changer quelque chose qui devait être changé il y a 30 ans. Jusque maintenant, on n'a pas fait un vrai procès du communisme. Qui sont les gens qui ont vraiment pris le pouvoir? Et on a beaucoup de lacunes dans notre connaissance de l'histoire. On n'a pas nettoyé notre histoire avec le communisme. C'est difficile dans cette condition de construire quelque chose saine, durable et soutenable.
Révolution roumaine, 30 ans après, l'espoir entravé. Un grand reportage de Louise Baudet réalisé grâce à Annie Bro. Il sera présenté ce soir par Aurélie Kiefer, diffusé à partir de 17h. Et avant cela, l'antenne de France Culture sera peut-être encore perturbée ce vendredi. Cela s'inscrit dans un mouvement de grève qui dure depuis 26 jours maintenant à Radio France. Mouvement contre la suppression de 299 postes et 60 millions d'euros d'économies. Hier, les antennes du groupe ont été fortement perturbées. La grève dure et semble commencer à faire bouger la direction, du moins d'après les syndicats, Maxime Tellier.
Une porte entrouverte ou entrebâillée, une petite lumière au bout du tunnel, c'est la première fois que les organisations syndicales évoquent un changement de ton de la présidence. Alors timide, certes, mais hier, ils ont été invités à négocier par la direction des ressources humaines en présence de Sybille Veil, PDG de Radio France. Changement de ton car cette fois, il n'était plus question de discuter de l'accompagnement du plan de départ volontaire. Les syndicats s'y refusaient de toute façon. Non, il était question de parler de réorganisation. Alors le changement est subtil, il n'est pas très clair, reconnaissent les syndicats, mais un délégué expliquait hier en AG devant le personnel tout ce qui permet de mettre en mouvement cette direction est bon à prendre. Un autre délégué enchaîné au micro, la direction se retrouve piégée selon lui, car elle ne s'attendait pas à un mouvement qui dure autant. Le même syndicaliste qui évoque aussi le gouvernement inflexible qui refuse de retirer les économies imposées à Radio France. La grève continue donc, soutenue par des personnels, qui s'adresse aussi et surtout à l'État, accusé de s'en prendre à tous les services publics en général. Quant à la direction de Radio France, elle n'a pas donné suite à nos demandes d'interview. La présidente Sybille Veil a tout de même publié une série de tweets hier où elle se posait en défenseur de Radio France, dont les moyens doivent être préservés au sein de France Média, la future holding du service public audiovisuel.
Maxime Tellier. Et avant que ne reprenne la musique sur France Culture, conséquence d'une journée blanche hier, le journal ce matin est raccourci. Je vous livre la météo du jour. Des vents violents vont souffler sur 16 départements des Pyrénées et du Centre-Est avec des rafales pouvant atteindre 200 km/h en haute montagne aujourd'hui. Tandis que de grosses perturbations menacent encore le sud-est du pays. Les établissements scolaires sont d'ailleurs fermés dans les Alpes-Maritimes aujourd'hui. Côté température, il fait ce matin 8 degrés à Besançon, 10 à Nantes, 11 degrés à Lille et Bordeaux, 14 à Lyon et à Paris, 17 degrés à Perpignan.